Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence pour ce nouveau rendez-vous avec un des musiciens programmés lors de l'édition 2023 du Festival de Rocamadour. Aujourd'hui, c'est Simon-Pierre Bestion, le fondateur et directeur artistique de la compagnie La Tempête, qui nous fait l'amitié de se prêter au jeu de l'interview. Bonjour et bienvenue à vous aussi, Simon-Pierre Bestion.
Bonjour.
La Tempête se produit cette année au Festival de Rocamadour le 22 août à 21h à l'abbatiale de Souillac avec un programme Bomba Flamenca. Nous allons y revenir. Il me semble que c'est la cinquième fois au moins que vous êtes invité au festival. J'ai donc la faiblesse de penser qu'on y aime d'une part vos propositions artistiques, mais aussi d'autre part que vous aimez y venir. Qu'est-ce que vous appréciez ici au-delà de la confiance que l'on vous y témoigne?
Tout d'abord, c'est une région qui m'a toujours beaucoup attiré par sa nature un peu sauvage et puis évidemment aussi le calme qu'on peut y retrouver durant toute l'année, qu'on retrouve moins l'été, mais l'été il y a d'autres aspects d'autant plus attirants. Je dois dire que la ville de Rocamadour est évidemment aussi une sorte d'aimant parce que elle a ce que je trouve pour moi spirituellement une capacité à rassembler de nombreuses personnes venues du monde entier et pas pour rien, notamment cette Vierge Noire sur laquelle j'ai fait un programme d'ailleurs qui s'appelle Soleil Noir, mais je n'ai pas encore donné à Rocamadour. Donc c'était une aparté, mais entre guillemets, il y a beaucoup de choses à la fois sur le plan, même je dirais culinairement. Et voilà, sur beaucoup d'aspects, j'aime beaucoup cette région et le festival nous fait l'amitié et l'honneur de nous inviter depuis plusieurs années, ce qui permet aussi de créer une sorte de public. Et je connais beaucoup de fidèles qui reviennent chaque année maintenant, donc c'est toujours un événement dans notre été à La Tempête de passer à Rocamadour ou maintenant à Souillac, parce que justement on se retrouve avec de nombreuses personnes et le public gonfle d'année en année.
Est-ce que les lieux où on vous invite à vous produire sont également très inspirants pour vous? Alors là, je ne parle pas du lieu Rocamadour en lui-même et de sa région, mais vraiment des édifices, que ce soit la basilique Saint-Sauveur à Rocamadour même ou l'abbatiale de Souillac.
C'est vrai qu'après avoir bien exploité le lieu de la basilique Saint-Sauveur, puisqu'on y a fait, je crois, 3 ou 4 concerts, un peu dans de nombreuses dispositions. J'ai souvenir notamment des Vêpes de Rachmaninov où on occupait vraiment tout l'espace, y compris l'espace central, mais avec le public aussi. On jouait vraiment en déambulation dans tout l'espace. C'était tout autre chose avec l'Arme de Résurrection. On était sur l'autel comme une sorte de représentation plus théâtrale. L'an dernier, j'ai découvert l'abbatiale de Souillac, un lieu assez, là aussi attirant pour moi parce qu'il m'évoque les lieux religieux de l'Orient avec ses coupoles byzantines. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, l'espace là aussi est très intéressant pour moi dans le travail que je fais de mise en espace, de mise en scène, de lumière et évidemment de spatialisation du son. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en plus évidemment de la capacité, je dirais, spirituelle à émouvoir, la beauté de ces édifices, moi, m'enrichit beaucoup quand j'y travaille.
Vous y aviez donné l'an dernier les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi dans le cadre du Festival de Rocamadour, donc, et
Tout à
ce
fait.
concert avait été un grand succès public. Mais tous vos concerts sont désormais de grands succès publics. Vous l'avez dit vous-même, parce que vous avez un public, maintenant vous vous êtes constitué un public vraiment très fidèle dans le cadre de ce festival. Alors, pour rappeler de bons souvenirs à ceux qui étaient présents et aussi, bien sûr, pour ceux qui n'y étaient pas, voici un extrait des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, interprété par la compagnie La Tempête. Toccata et Domine ad Adiuvandum, extrait des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, interprété par la compagnie La Tempête. Alors, la compagnie La Tempête, il y a une chose qui peut intriguer ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas votre travail, c'est que La Tempête ne se présente pas comme un ensemble ou un collectif, mais comme une compagnie, un terme plutôt réservé aux troupes de théâtre. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il est difficile de vous faire entrer dans une case. Pourquoi vous avez choisi cette appellation, ce terme de compagnie?
Ben, parce que c'est vrai que déjà de par mon éducation, j'ai vécu avec des parents qui avaient créé eux-mêmes leur compagnie. Je dirais qu'il y a un aspect assez bohémien dans cette idée de compagnie, puisqu'on évolue ensemble, on évolue parfois de façon familiale avec des artistes. Et pour moi, le mot ensemble n'évoquait rien, à part une réunion de musiciens, et je trouvais ça pas assez fort. Le mot collectif aurait désigné quelque chose qui n'est pas l'objet exact de notre travail, puisque j'en assume clairement la direction artistique. Et la compagnie, par contre, ça me parlait beaucoup plus, parce que déjà ça s'identifie aussi aux arts du spectacle vivant, donc du théâtre et de la danse, dont je suis très proche dans ma façon de travailler et d'aborder l'art. Et aussi parce que on parle tout simplement de compagnonnage avec des artistes avec lesquels je collabore régulièrement. Donc cette idée de compagnonnage me plaît particulièrement dans le travail avec La Tempête.
Et oui, et puis La Tempête, c'est aussi le titre d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Vous l'avez choisi pour ça d'ailleurs, le nom de cette compagnie, La Tempête?
Tout à fait, Shakespeare a été un élément déclencheur de cette compagnie, ouais, parce que ça a été aussi le premier projet que nous avons porté et qui réunissait justement de la danse, du théâtre et de la musique.
Donc, tout de même, ensemble instrumental et vocal, mais avec cet aspect de mise en scène et intégration du public dans vos créations, hein, chaque concert étant une création à part entière en fonction des lieux où il est donné. Ça, c'est vraiment l'essence de La Tempête.
Oui, tout à fait. Ce que je fais régulièrement, ce qu'on appelle au théâtre briser le quatrième mur, c'est vraiment essayer de convier le spectateur et de lui faire partager ce rituel à la manière la plus sensible et la plus intense que nous pourrions le faire, et dans la façon dont nous le vivons en tant qu'artiste sur scène. C'est un peu ce qui s'est produit l'an dernier à Souillac, justement, avec les Vêpres de Monteverdi. Il y a une sorte de réorganisation d'un rituel, certes sacré, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théâtralité dans le sacré, et encore moins d'objectifs de beau et de ritualisation, en fait, des événements et des éléments musicaux. Donc c'est vrai que j'essaye avec les musiciens de la compagnie de créer quelque chose d'extrêmement visuel qui accompagne pour moi de façon évidente tout l'aspect sonore, évidemment, et l'immersion sonore du spectateur.
Concernant l'aspect mise en espace, l'aspect scénographie, est-ce que c'est vous qui assumez complètement ce domaine-là, ou est-ce que vous faites aider, assister par d'autres artistes?
Alors, en ce qui concerne la lumière seulement, là, je me fais aider par une artiste qui a fait l'ensemble de nos créations, qui s'appelle Marianne Pelserf, qui est à la fois vitrailliste et créatrice lumière. Mais en ce qui concerne le reste, c'est-à-dire, donc ça peut être les éléments scénographiques ou davantage la mise en scène et la mise en espace, ou voire la chorégraphie, là c'est moi-même qui conçois la chose, parce que je trouve que ça doit être intimement lié à l'organicité de la musique, donc ce que dégage en fait le mouvement de la musique et ce que dégage son énergie. Donc je choisis de travailler seul là-dessus et de le partager comme ça avec les artistes de La Tempête.
Le répertoire de La Tempête, on pourrait le réduire à première vue à la période baroque, qui est déjà très vaste, il est vrai, mais jusqu'où va-t-il en fait?
Moi, je ne me mets pas de limite en fait sur le répertoire, parce que c'est vraiment au gré de mon évolution, d'une part, et puis du projet que nous abordons. Il est vrai qu'au départ, mais il y a cela 10 ou 15 ans, on était plutôt cantonné à la musique baroque et à la musique ancienne, mais aujourd'hui j'aborde aussi bien la musique médiévale que la musique renaissance, la musique romantique bien sûr, enfin tous les répertoires finalement classiques jusqu'à la création contemporaine. Et même bien au-delà, parce que maintenant je fais des ponts réguliers avec des musiques de tradition populaire ou orale. Je pense notamment dans notre dernier spectacle à la musique tzigane, à la musique des Balkans aussi. Toutes ces musiques m'inspirent et dialoguent beaucoup avec les projets de musique plus traditionnelle et plus classique qu'on aborde dans le répertoire, on va dire, français, et puis dans les spectacles d'orchestre classique et de chœur.
Vous évoquiez tout à l'heure le côté byzantin, oriental de la Bastiale de Souillac. J'ai l'impression aussi que l'Orient et les musiques d'Orient vous inspirent beaucoup, vous attirent beaucoup en tout cas.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison profonde. Il y en a certainement une, mais en tout cas ce que je retiens moi à la pratique de ces musiques-là, dont je me suis petit à petit enrichi et habitué, ce que je retiens c'est vraiment la façon dont les orientaux ont su garder la notion du rituel et du beau dans leurs offices. Et moi ça m'attire beaucoup parce que c'est quelque chose d'essentiel chez eux, aussi le temps long, la longueur, l'absence peut-être de trop d'intellectualisation comme il y a en Occident. Donc on est dans quelque chose de qui est plus de l'ordre du ressenti et du dialogue direct entre l'homme et Dieu, par exemple, si on veut parler des musiques sacrées, sans intervention par le travail de l'intellect ou de l'esprit. Il y a quelque chose d'assez direct entre l'intuitif, l'instinctif et le divin. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'essaye justement d'exploiter dans les spectacles parce que c'est là-dessus que l'on travaille. Et même si les spectacles sont amenés à proposer une réflexion qui peut évoluer après le spectacle, pour moi, le premier impact qui doit être réel pour le spectateur, c'est d'être vraiment pris par les sentiments, bien sûr, mais pris par quelque chose de supérieur qui ne nous laisse pas le temps de réfléchir quand on est sur place. Et donc, voilà, c'est ce que je retrouve un peu dans la vision de l'Orient.
Parlons maintenant de ce programme Bomba Flamenca que vous donnez ce 22 août à l'abbatiale de Souillac. Dites-moi, ce n'est pas du flamenco tout de même?
Non. Non, justement, c'est un jeu de mots où on s'y tromperait. C'est un peu fait exprès. Bomba flamenca, ça ne veut rien dire en espagnol, mais en traduction un peu littérale, ça voudrait dire la bombe flamande, et non pas comme le flamenco. Flamenca désigne quelque chose de flamand. C'est une sorte d'hommage à ce qu'on appelait la capilla flamenca, c'est-à-dire la chapelle flamande, qui a existé pendant de nombreuses années durant le règne de Charles Quint en Espagne et de son fils. La chapelle flamande, c'était en fait une chapelle composée de musiciens, chanteurs et compositeurs qui venaient uniquement des Flandres, parce qu'il était aussi roi des Flandres, Charles Quint, et parce que les Flamands à cette époque-là étaient extrêmement réputés pour leur qualité de compositeurs et de musiciens. Charles Quint les a fait venir en Espagne, et voilà, cette chapelle flamande, capilla flamenca, a fait une sorte d'effet de bombe un peu en Espagne, parce qu'elle s'est répandue, c'est comme un art qui s'est répandu et qui s'est mêlé à une autre culture très différente, la culture espagnole. Donc c'est un jeu de mots, cette bombe flamande en Espagne, en plein 15e, 16e siècle.
Voilà, programme espagnol du siècle d'or, El Siglo de Oro, le 16e, celui de Charles Quint. Avec quel effectif de chanteurs et d'instrumentistes allez-vous le donner, ce programme?
Alors, il y aura 16 chanteurs, dont 4 solistes. Et puis, le reste, il y a beaucoup d'instruments sur ce projet, une vingtaine exactement d'instruments, parce que il y a plusieurs, comme j'aime faire, mais peut-être plus encore que l'an dernier avec Evette de Monteverdi, il y a plusieurs, on peut dire, centres, îlots scéniques qui entourent le public Et on entend des instruments très variés, plusieurs familles d'instruments, des familles de cuivre, anciens évidemment. Donc c'est ce qu'on appelle les cornets à bouquins et les sacbouts, qui sont des trombones. Ça, c'est la famille des cuivres et la famille des bois, avec les dulcianes, qui sont l'ancêtre du hautbois, les dulcianes graves, les dulcianes aigus, qui sont répartis sur des petites scènes dans le public. Et puis il y a un îlot central avec des cordes, et des cordes pincées aussi, un orgue évidemment. Voilà, donc ce qui va créer aussi du mouvement dans les instruments, en plus du mouvement habituel que font les chanteurs dans mes productions.
Donc vous avez déjà bien en tête la façon dont vous allez spatialiser ce concert, la manière dont vous allez utiliser l'espace de cet édifice magnifique qu'est l'abbatiale de
Oui, tout
Soulac.
à fait, parce que c'est un travail qui doit se mener très en amont. D'une part, pour l'installation technique, il faut que ça se prépare. Donc là, les plans sont faits, et puis moi, je travaille sur les plans avant de me rendre sur place l'avant-veille pour justement l'installation et la répétition avec tous les artistes.
Eh bien, pour que nos auditeurs se fassent une idée de ce programme, voici un extrait de Bomba Flamenca par la compagnie La Tempête. Extrait de Bomba Flamenca par la compagnie La Tempête, le programme que vous donnez ce soir à 21h, ce mardi 22 août, à l'abbatiale de Souillac. Une dernière chose avant de terminer cet entretien, c'est mon Pierre Bestion. La Tempête a été lauréate du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral en 2022. Elle a été distinguée par un jury présidé par Laurent Séquilbet et lors d'une édition consacrée au chœur professionnel. Cette récompense très prestigieuse, on peut se dire que c'est un vrai signe de reconnaissance pour votre travail et un signe de reconnaissance donné par la profession. Est-ce que c'est aussi très important pour vous et pour La Tempête dans la mesure où une telle distinction peut ouvrir les portes de festivals ou de grandes salles de concert?
En tout cas, je dirais que c'est surtout important pour la reconnaissance des confrères et du milieu professionnel dans lequel on évolue, parce que c'est, on va dire que tous les grands ensembles français ont reçu cette distinction à un moment donné de leur carrière, et donc ça fait rentrer dans une sorte de cour des grands. Donc pour ça, moi j'en suis extrêmement fier. Et puis je rajouterais que cette sorte de distinction, comme j'avais pu avoir dans le passé avec un soutien, par exemple, de la Fondation Orange, qui était aussi un moment fort, cette fois-ci la Fondation Bettencourt, ça arrive toujours à point nommé dans des carrières qui sont difficiles, où il faut beaucoup travailler, qui n'est pas dénué non plus de moments de questionnement en collectif. Et donc on a besoin comme ça de moments qui nous reconcentrent et nous redonnent de l'énergie pour, voilà, pour continuer de l'avant et aller de l'avant avec de nouveaux projets et continuer à rester créatif.
Et qui vous conforte dans le fait que vous allez dans la bonne direction, si on peut dire.
Exactement, exactement. C'est un soutien très fort dans cette direction, dans cet élan artistique.
Et qui vous est propre et qui est aussi bien particulier dans le milieu, comme je le disais tout à l'heure. Vraiment,
Oui.
la tempête, c'est pas une compagnie, je reprends votre expression, comme les autres. Un grand merci, Simon-Pierre Bestion, de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Je rappelle donc que la compagnie La Tempête donne son programme Bomba Flamenca ce mardi 22 août à 21h à l'abbatiale de Souillac. Les places, s'il en reste, peuvent être achetées et réservées en ligne sur le site www.rocamadourfestival.com. Pour ma part, je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Présence demain à 13h30 pour un entretien avec un autre musicien programmé lors de ce festival 2023. Merci de votre fidélité et très bon après-midi à tous.